au sujet des de masques. Et il ne faut pas porter Shabbat. Il ne faut pas porter le masque Shabbat. Je répète encore une fois ce que j'ai écrit. Et les gens ils me demandent, alors je répète parce que c'est parce que les gens ils ont besoin de savoir maintenant que les gens ils vont de plus en plus sortir. Alors, le masque, si on le porte sur la bouche correctement pour protéger, en principe, selon Minatora, c'est permis de porter. Ça s'appelle Derech Malbouche, c'est comme un pansement, une protection. Comme, il y a quelqu'un qui a, il faut fermer. Je vois Knin, peut-être c'est vous. Voilà. Alors, comme Tsela Sha'alatzinit, une pierre, non pas une pierre, une pièce d'argent attachée sur la plante du pied qui protège le pied parce qu'il y a une blessure et quand il marche, il a peur que le sol va le. Lui faire mal, donc il le protège, c'est moutard. Donc, c'est là, c'est la tzinit, c'est permis. Donc, en principe, on peut être omikil, comme le Mishnevrou, il dit, quelque chose qui protège le corps, c'est permis. Ça s'appelle derech malbouche. Mais le problème, il est que ça, c'est n'est vrai que si elle est sur la bouche et ça protège. Mais si on le met plus bas que la bouche, on met pas ici, mais on met ici, ce qui est souvent le cas. Moi, je vois des gens tout le temps dans la rue. Dès qu'on veut hachoumer, dès qu'on veut parler, dès qu'on veut respirer un peu mieux, c'est trop chaud. C'est un peu désagréable, cette histoire de masque. Alors, souvent, les gens, ils les mettent plus bas. Et si on met plus bas, c'est assur minatora de porter. C'est un din comme talit al-ktefo. On n'a pas mis derech malbouche, mais on l'amène dans un autre endroit pour l'utiliser là-bas normalement. Mais pour le moment, on la porte. De façon masouille, mais pas derrière Malbouche, ça c'est assur minatora. Et donc il y a un xéra de peur qu'il va porter quatre coudées. C'est pas choute que c'est très très courant que les gens le déplacent. C'est beaucoup plus qu'à l'époque de la Gemara, quand on dit Chacham, ils ont interdit pour les femmes de porter des tachitines de peur qu'une autre femme va venir et voudrait lui montrer. Donc elle enlève et elle montre, elle porte quatre coudées. C'est beaucoup, beaucoup plus courant. C'est tout le temps, tu vois, des gens, ils enlèvent le masque en bas. C'est pas chaud que c'est assommé de Rabbanan de porter. Maintenant, si quelqu'un y porte quand même, Mistama, il y aura des gens qui vont y porter, au moins qu'il le porte vraiment normalement et pas ici. Porter ici, c'est assommé de la Torah. Porter sur une nez et protéger, c'est assommé de Rabbanan. Mais ceux qui portent, au moins qu'il fait un Rabbanan, qu'il ne fait pas un Deraïta. Mais s'il veut savoir si on a le droit, on n'a pas le droit. J'ai peur qu'on va. Moi, je vois ici Monsieur Georges, il est dans la voiture. C'est Monsieur Georges, il est dans la voiture. Avant, il avait un masque. Alors, dans la voiture, peut-être c'est permis de porter un masque Shabbat, parce que c'est pas dans la rue, c'est Rechot HaYachid, mais on peut pas porter. On peut pas rouler en voiture, mais on peut porter un masque dans une voiture, c'est vrai. Alors.
Mais les médecins, ils le portent aussi sur le. C'est leur habitude de porter là. Donc
C'est
c'est aussi.
ça. C'est pour ça que c'est assourd. C'est pour ça que ça s'appelle derrière. C'est comme moi, j'ai la coutume de mettre mon porte-monnaie dans la poche, et c'est assourd. Et toi, tu as la coutume de mettre ton mouchoir dans la poche, et c'est pour ça que c'est assourd.
Les gens qui mettent une bague avec un khotam, si c'est des hommes, eux c'est assourd. Eux c'est assourd. Les femmes, c'est. Je veux dire, eux c'est permis. Mais les femmes, c'est assourd parce qu'il y a une différence homme-femme. Mais là, tout le monde le porte comme ça. C'est un derrière. C'est un
C'est
derrière.
ça. C'est exactement. Écoute encore une fois que je te répète. C'est le derrière de tous les gens de mettre un mouchoir dans la poche. Tout le monde y fait ça. Et c'est pour ça que c'est assur minatora. Parce que ce n'est pas une malbouche. Maintenant, c'est un objet de portée. Ce n'est pas un malbouche. Ça ne sert pas au corps maintenant. Ça servira plus tard au corps. Le mouchoir servira plus tard au corps. Maintenant, je le porte pour l'amener là-bas pour le servir maintenant. Malbouche, ça veut dire tel qu'il est maintenant, il sert au corps. Alors, si le masque il est comme ça, maintenant il sert au corps. Quand le masque il est là, il sert pas au corps, mais il servira plus tard, comme un mouchoir qu'on servira plus tard.
Alors
Quand un homme
si
il a un médicament dans sa poche, il porte dans la rue, il a chayav minatora. Mais le médicament il sert au corps. Oui, il servira au corps quand il est dans ta bouche et que tu avales. Là, il sert au corps. Quand tu es dans la poche, tu le retransportes pour l'amener là-bas, là où tu veux le manger. Donc, quand on a le masque ici, ça s'appelle on transporte pour l'amener, pour l'utiliser plus tard.
Parce que c'est alors, pas qu'il y a un péad. C'est ça. C'est parce que c'est pas une manière. C'est pas une manière.
C'est pas mal. C'est pas derech malbush, mais c'est derech masoui.
Alors s'il est vrai.
Il y a trois moussagim. Il y a derech malbush, il y a derech masoui, il y a shelok derech masoui. Il y a trois moussagim dans Hilchot Shabbat. Derech malbush c'est mutar, derech masoui c'est asur, et shelok derech masoui c'est midrabanan. Maintenant, il y a un derech malbush qui est un xera de rabanan de peur qu'il va le porter derech masoui.
S'il est vrai que le masque c'est vraiment une protection, d'après les médecins, d'après tout ce qu'ils disent là, qu'il faut à tout prix mettre le masque, etc. Ça veut dire qu'on on pourra pas retourner dans les synagogues le Shabbat.
Pourquoi?
Parce qu'il y aura toujours un risque, un gros risque de contamination si la personne n'a pas le masque. Vous voyez ce que je veux dire? Si le masque c'est vraiment une vraie protection contre le virus, c'est comme ils disent.
On les dépose à l'extérieur, comme tu déposes ton tapis.
La vérité, elle est comme ça.
Il ne faudra pas retourner dans les choules.
Je propose. La vérité, il faut nuancer.
Mets la caméra aussi.
Il y a un certain danger que je ne peux pas évaluer à combien. Il y a un certain danger. Et le masque, c'est... Monsieur Bouzna, il faut faire.
Oui, ce que je voulais dire à Hervé, c'est qu'il peut laisser la synagogue. Il faudra laisser des masques.
C'est pas ça que lui parle. Lui parle autre chose. Il dit il y a un certain danger d'attraper la maladie. Le masque, c'est une certaine protection. Ni le danger à 100%, et ni il est absent à 100%. Il est là à un certain degré. Le masque, c'est pas une protection à 100%. Et c'est pas rien du tout, ça protège d'une certaine manière. Maintenant, les gens, ils ont pris la coutume, comme on peut pas tout interdire, et il faut diminuer les risques. Donc le masque, ça diminue les risques. Maintenant, est-ce qu'on peut aller le choule ou pas, c'est une autre question. Il faut évoluer, je sais pas, moi je suis pas capable d'évoluer combien de risques il y a sans le masque, mais il y a un certain danger, tout le monde est d'accord, un certain, on peut discuter combien. Le masque, c'est une certaine protection, on peut discuter combien. Mais pour nous, la halakha, ce n'est pas tellement un naftamina, hein, parce que le masque, c'est une protection 100% ou à 50 ou à 30, ce n'est pas tellement un naftamina. Parce que du moment que les gens ils ont la coutume de considérer ça comme une certaine protection, ça suffit pour la halakha, comme la kameya. Tu crois que la caméa à l'époque de la Gemara porte une caméa, c'est une protection 100%? Pas du tout. C'est un certain degré de protection que les gens, ils ont pris la coutume de s'appuyer dessus. Et on le porte. Mais ça suffit. Docteur, qu'est-ce que vous dites?
C'est à moi que vous parlez.
Oui.
Ah ben, quand votre masque, il est neuf, il est 100% protecteur. C'est pas incertain, c'est 100% protecteur. Maintenant, après, quand il a été utilisé plusieurs fois, ou bien quand on va le toucher, ça, c'est un autre problème. Maintenant, la question, vous l'avez posée très bien, c'est s'il le porte derrière Malbouche, il n'y a pas de problème, mais les gens ont l'habitude, malheureusement, de le baisser. Alors, est-ce que vous allez interdire derrière Malbouche à l'ibad de celui qui baisse, ou bien est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un qui est capable de respecter derrière Malbouche?
Si Chachamim, ils ont dit que les choses qu'on a la coutume de porter, d'enlever dans la rue, et même si c'est un peu lointain, comme la Mishnah dans Mesechet Shabbat, et les fils qui sont dans les cheveux, que quand on va à Tfilat Mitzvah, il faut les enlever, après il faut le remettre en crin, qui va porter quatre coudées dans la rue, ou un chapeau qui est large, avec du rebord large, et que le vent risque de souffler, et de lui faire emporter, et l'homme il va courir derrière, après il va lever le chapeau, il va porter quatre coudées dans la rue. Ou les bijoux qu'on va porter quatre coudées dans la rue pour montrer à la... Il y a plein des choses qui sont marquées dans la Mishnah. Pour les gants, il y a un machloket dans le Shulchan Aruch. Est-ce qu'on a le droit de marcher avec des gants si on a froid? Yesh osrim yesh matirim. Ce qui est osser, parce que quand les gens, ils veulent se gratter, alors, ils enlèvent les gants pour se gratter. Et alors, on a peur qu'il va porter quatre coups Et l'autre mandamar, il dit non, les gants, quand c'est froid, pourquoi on porte les gants? Parce qu'on a froid. Quand on a froid, on n'a pas la coutume d'enlever. Ça, c'est un machloket dans Shulchan Aruch. Mais pour les masques, moi, je les vois tous les jours que les gens ils les portent en bas. C'est tous les jours. C'est vrai que si on habite en Chine, ou à Taïwan, ou Hong Kong, je ne sais pas. Mais en Chine, les photos, ce n'était pas en Chine, mais les photos qu'on montre, c'est impressionnant. Tu vas là-bas, dans les rues, dans Hong Kong, dans Chine, 1000 personnes dans la rue, mais il n'y a pas un qui porte le masque pas correct. Ma masque, comme des robots. C'est des gens éduqués. C'est comme ça. Des milliers de gens, tu vois, il n'y a pas un qui n'a pas le masque correctement. Alors donc, ceux qui veulent passer Shabbat à Shanghai ou à Wuhan ou je ne sais pas quoi là-bas, mais en Chine, on peut porter et aller à la choule parce que personne n'osera. Et ça, c'est marqué dans la Gemara aussi vis-à-vis de Khotam Sheba Avadim et vis-à-vis d'étoiles jaunes. Et marqué sur le on a le droit de porter une étoile jaune Shabbat. Et on ne craint pas qu'il va l'enlever. Parce que la malchoute a interdit d'enlever. On n'a pas le droit. Et au Moyen-Âge, les goyim, ils ont dit, un juif n'a pas le droit de se promener avec un habit sans étoile jaune. Donc, mais les personnes l'enlèvent. Les gens, ils ont peur. De la police, on n'enlève pas. Donc, si on avait habité dans un pays où il y a la punition mamache et les gens sont civilisés, dans ce cas-là, ce sera moutard. Mais en France, ni une obligation de porter un masque, ni une interdiction de porter le masque déformé et interdit ou pas interdit, de toute façon on le fait, point à la ligne. Donc, mais les...
Une petite question, tout à l'heure vous avez parlé de la pièce qui est collée sur le pied pour guérir, vous avez dit que si on le porte le masque c'était interdit midérabanane. Comment ça se fait que si la pièce est autorisée c'est interdit le masque midérabanane?
Parce qu'on n'a pas la coutume d'enlever la pièce du pied. Il n'est pas la coutume. Quand quelqu'un met un pansement, il a une blessure sous la plante du pied, il met un pansement, il n'a pas la coutume au milieu de la rue d'enlever le pansement. Et donc, il n'y a pas de gzéra. Mais le masque, il y a eu une gzéra. Ça rentre dans tout ce qui est marqué dans la Gemara, 6e pérec de Mesechet samedi, de peur qu'on va l'enlever, on va porter 4 coudées dans la rue.
Ça veut dire que si le gouvernement demain, il décrétait que le port du masque, il était obligatoire dans la rue. Imaginons, ils disent voilà demain, maintenant tous les gens qui sortent obligés de mettre le masque.
Il faut rester. Il faut rester à la maison.
Donc nous on pourra pas le porter.
Le métro c'est permis, ça vient.
Non mais si le bon Dieu il est gentil avec nous et il nous laisse marcher sans le masque, pourquoi tu imagines des cas? Pourquoi t'es pessimiste toi?
Non, je suis pas pessimiste. Je pose une question.
D'accord, alors j'ai répondu. Dans un pays où il y a un xéra qu'on est obligé de prendre le masque, on ne peut pas sortir. Maintenant, on arrête. S'il paraît qu'ils ont dit qu'on est obligé de sortir avec un masque, alors ceux qui s'appuient sur les hérouf, ils s'appuient. Ceux qui ne s'appuient pas sur les hérouf, peut-être pour un drabanan, ils s'appuient. Pour un draïta, non. Bon, chacun, il a son truc. Il y en a qui s'appuient complètement sur les hérouf, il y en a qui ne s'appuient pas du tout. Il y en a qui s'appuient pour drabanan, pas pour draïta. En tout cas, quand il n'y a pas des roufs, il n'y a pas de safek, on n'a pas le droit. Alors, mais bon, Hachem, les Français, ils ne nous ont pas interdit de sortir sans masque. Pour le moment, ce n'est pas interdit. Pour le moment, je ne sais pas, le futur.
Dans le métro, c'est à sourd de sortir sans.
Alors, donc, on peut aller au métro Shabbat, on ne peut pas aller au métro Shabbat, ça, c'est un peu un problème. Ça, c'est un peu un problème. Comment les gens ils vont faire pour aller à la choule au métro? Ça, c'est un peu un problème. On va m'aïen, peut-être on va faire peut-être un hétan meilleur à banim trouver sur ça. Alors, on va attaquer la Gemara. Alors, nous sommes Yuma Peivav. Alors, nous sommes ici. Avalmi, nous sommes la dernière ligne où c'est large. Vous avez Aval. Quelqu'un qui a la profanation du nom d'Hachem dans sa main, en lo koach v'tshuva litlot. La tshuva ne peut pas suspendre. Velo biyom kippurim lechaper. Le yom kippur ne peut pas pardonner. Velo bisurin le marek. Les isurin ne peuvent pas effacer. Et la kulantolin, tout peut suspendre. Ou mitam et marek, suspendre. Je m'imagine, c'est comme, je sais pas, suspendre, ça veut dire. Il y a des gens qui sont condamnés à la prison en sursis. C'est tolin, c'est-à-dire c'est en sursis. Umita memarek, c'est que la mort qui peut effacer. C'est-à-dire quoi la mort? La souffrance de la mort. Quand on a la mort, il y a des souffrances de la mort. J'aime quand c'est marqué, venig la boz ne hachem tzvakot, im yichou para avon azel lachem atemutun. De qui on parle? On parle des enfants d'Eliah Cohen. Eliah Cohen avait deux enfants qui ne se comportaient pas bien. Et le pas bien qui se comportait était composé en deux morceaux. Un morceau, bon, ils ne se comportaient pas bien, c'est une chose. Et deuxièmement, ils ont provoqué un chilul Hashem. Parce qu'il est marqué que le texte est dit que les gens, ils ont dit, c'est moche comment ces deux, les enfants du Gadol Ador. Eliah Cohen était le Cohen Gadol, il était le Navi, il était le Gadol Ador en Torah. Il a deux enfants, les successeurs, et il se comportait d'une façon que les gens, ils ont pas du tout apprécié. Ils ont arraché la viande des gens, ils ont demandé aux gens, des femmes, de pouvoir retourner à la maison, d'attendre demain, pour les gagner d'argent. Et le texte, il dit qu'elles ont fait des bêtises avec les femmes. Le grand nous dit, c'est pas tout chouteau. Mais en tout cas, c'était un chilul Hashem. Et le texte, il dit, alors, Shmuel HaNavi, il a reçu cette nouvelle. Dieu va pas pardonner à Temutun. Ça, c'est pas sûr dans Yeshaya. Et déjà, Shmuel HaNavi, Hashem lui a dit quand il était enfant, que malheureusement, les deux enfants, c'est Dieu pardonnera pas. Et le texte, il dit, à Temutun, jusqu'à vous mourir. Qu'est-ce que c'est Chilul Hashem? Alors ça, c'est une grande, grande soukia. Qu'est-ce que c'est Chilul Hashem? Il y en a mille cas de Chilul Hashem, c'est un monde entier. Chilul Hashem, c'est un espèce de passe-partout. Et transgresser Shabbat, c'est, il y a des halachot, beaucoup d'halachot, non avot, beaucoup de raïta, beaucoup de raïta, beaucoup de rabbanan, beaucoup de inyanim. Mais Chilul Hashem, c'est quelque chose qui est global, qui est en tout. Dans chaque mitzvah, il y a un peu un Chilul Hashem. Dans chaque avera, dans chaque comportement, dans chaque situation. Chilul Hashem, c'est un passe-partout. Et ça, c'est... Il y a Kiddush Hashem et Chilul Hashem. C'est dans la parashat Emor. « Venikdashti betoch ben Israël, velo techallu et shem kotchi, venikdashti betoch ben Israël. » Et Kiddush Hashem, c'est sanctifier le nom d'Hashem ou profaner le nom d'Hashem. C'est quelque chose influencé. Rachid a dit influencer les gens. Rachid a traduit Chilul Hashem, chote ou marti acherim. Il fait fauter des autres. Mais faire fauter des autres, il y a directement faire fauter, il y a indirectement. Il y a affaiblir l'honneur d'Hashem. C'est donner une impression jusqu'à les gens, ils disent la religion Hashem n'est pas bonne. Ou Dieu, c'est les gens religieux ne sont pas bien, ou la religion n'est pas bien, ou je ne veux pas Dieu. Influencé dans ce sens. Ce qui est de ce chemin, c'est toujours le contraire. La religion, c'est quelque chose de bien. Ça m'intéresse. Et c'est un yesod que, c'est un yesod qui en vérité ne peut pas laisser un homme indifférent 24 heures sur 24 heures en vérité. C'est comme les commerçants. Ils ont toute la tête dans le commerce ou un homme qui est dans une guerre, le chef d'État, toute la journée, il pense à la guerre. Il, c'est, tout est dedans. Kiddush Hashem, c'est quelque chose que, Be'etzem, pour faire toute la vie, il faut faire attention de faire Kiddush Hashem par Chilul Hashem. Il y a tellement beaucoup de situations. Et la Gemara dit, Heichedame Chilul Hashem. C'est quoi comme question, Heichedame? La Gemara ne sait pas Heichedame, la Gemara le sait très bien. C'est la Gemara qui veut dire, Heichedame, jusqu'à où ça va? Donne-moi la limite. Des petites choses aux yeux des gens, on n'est pas des tout Chilul Hashem, mais c'est bien Chilul Hashem. C'est ça l'essence de la Gemara.
Les fils d'Élie, ils avaient fait Chilul Hashem.
Je n'ai pas entendu.
Les fils d'Élie, ils avaient fait Chilul Hashem.
Oui. Oui, je t'ai dit. Tu as marqué dans le pasouk, oui.
Ça s'appelle un Chilul Hashem, ce qu'ils ont fait.
Mais je viens de te le dire que oui. Pourquoi ça, maintenant tu poses la question? Alors, Amarav, Rav, il a dit, Gon Ana, quand par exemple moi, Ishakil Nabisra, quand j'achète de la viande chez le boucher, Mitapcha chez le boucher, Velo Ehivne Dmeila Altar et je ne paye pas tout de suite. Je me fais donner un crédit. Alors il va au marché et il va au boucher, voilà, coûte 30 euros, je vais acheter de la viande, mais je n'ai pas d'argent sur moi, monsieur le boucher, vous pouvez faire un crédit. Oui, monsieur le rabbin, il n'y a pas de problème, je marque dans mon calepin, vous me devez 30 euros. C'est un Chilul Hashem. Quel est le Chilul Hashem? Qu'est-ce qu'il y a de problème? Où est le problème? Pour très fin crédit, où est le problème? Rashi, Volo Yehiv net mail à alter, je ne paye pas l'argent tout de suite, ou que j'anime à faire les froids, et quand je vais retarder, je dis, bon, monsieur, aujourd'hui c'est lundi, je passerai mercredi, je vous paierai. Maintenant, je n'ai pas d'argent sur moi, je passerai mercredi, je vous paye. D'accord, monsieur le rabbin, pas de problème. Mercredi, vous me payez. Et Rav, il passe mercredi, et il n'a pas d'argent sur lui. Il va attendre jeudi, vendredi, jusqu'à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il pense le boucher? J'anime à faire les froids quand je retarde de payer. Ou en mer, le boucher va dire, j'anime gazlan, ah, je suis un gazlan, je ne paye pas. Mais la mad mi men eliot mezal zelbe gezel. Et ce boucher, il va apprendre, ah, le monsieur le rabbin aussi n'est pas à cheval pour ses dettes. Ça va, pour lui perdre mercredi, il n'est pas venu. Ce n'est pas si grave de ne pas payer ses dettes. Moi aussi, je me permets. Prochaine fois, j'achète de la viande chez le grossiste et je ne paierai pas à l'heure ou je ne paierai pas du tout ou d'autres choses. Ou j'ai, et Gezel a mis une possibilité qu'un commerçant il peut être un voleur. Et bien moi aussi, il ne faut pas prendre ça. Le rabbin aussi il n'est pas donc grave. Il ne veut pas du tout voler, il veut payer. Je dis, je paye mercredi. Mais peut-être je ne paierai pas mercredi, j'ai un empêchement, je paierai jeudi. Entre-temps, il a déjà pensé mal. C'est déjà dans sa tête baissée. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Rav? Je n'ai pas le droit d'acheter au crédit. Moi, quand j'achète au crédit, c'est un chilul Hashem. Là, il va sortir un zilzul de gezel. C'est phénoménal. Mais Rav, il dit que quand Anna, par exemple, moi, parce que Rav était le chacham de la ville, mais s'il aurait été un simple, on a le droit de faire un crédit. Un simple juif qui veut faire un crédit, monsieur le boucher, je peux vous payer la semaine prochaine. Oui, vous pouvez la semaine prochaine. S'il ne vient pas la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il pense le boucher? Ah, il n'est pas très correct ce monsieur. Mais bon, j'espère qu'il va payer après. Il n'est pas très correct, mais ce n'est pas ça qui va lui donner un heter de voler. Si c'est le rave, tout de suite, c'est augmenté. Tout de suite, c'est, ah, lui, le représentant de la Torah, il n'est pas cheval. Moi, je suis un simple juif, je peux baisser encore un petit peu plus. Donc, ça, c'est.
On pourrait pas dire aussi qu'il ne peut pas se permettre de refuser au rave et ça l'oblige, il s'oblige, le boucher. À un autre, il aurait refusé de faire crédit, mais lui, au rave, il ne peut pas refuser, alors il est obligé de lui faire et c'est ça qui est un chidou l'Hachem. Il est opprimé par le rave quelque part.
Alors, c'est un bon pshat, pas mal, mais ce n'est pas le pshat de Rashi. C'est marqué, c'est vrai, c'est marqué comme ça dans le poskim, que quand un homme demande un crédit ou un cadeau ou n'importe quoi, mais il sait que l'autre ne le fait pas de bon cœur, c'est pas bon. C'est Ava Gezel. Ça peut aussi exister. Mais Rachid n'est pas sur ça.
Pourquoi mais le problème, c'est pas de ne pas faire du crédit. C'est pas le problème du crédit. Le problème, c'est de ne pas tenir sa parole. Je peux faire crédit, c'est pas sourd, mais tu tiens pas ta parole de rembourser la dette au jour où tu devais la rembourser. Il est là le problème.
Oui, mais Rav, il dit, c'est quoi pour moi, Chilul Hashem, quand j'achète et j'achète au crédit. Parce que plus tard, ça risque d'arriver à Chilul Hashem. Rav, il dit, moi, quand j'achète au crédit, je fais un avira. Étant donné qu'il y a une possibilité que je ne paierai pas à l'heure, ou me mêle, je ferai un Chilul Hashem. Donc, mêle, acheter déjà, j'ai déjà fait un avira. C'est ça que Rav, il dit.
Ça, c'est moi, pas ce que c'est Rav.
Parce que c'est rare, oui.
Parce que si
ça aurait été pas rare, ça aurait été permis.
Alors, il vaut mieux ne pas avoir de barbe. Il y a moins de risques.
Pour certaines personnes, tu as raison. Pour certaines personnes, je leur conseille fortement de raser la barbe. Tu as raison. Il y a beaucoup de gens que je leur conseille de raser la barbe et d'enlever le chapeau. Oui. Mais seulement pour tous ceux qui disent qu'il faut avoir une barbe et un chapeau, il y en a beaucoup comme ça. C'est le Hasidim, c'est Kodesh Kodeshim, mais j'ai beaucoup d'autres aussi. C'est parce qu'ils disent que le fait que tu aies un barbe et un chapeau, ça t'empêche de faire des bêtises. Étant donné que tout le monde disait que si je me déguise en religieux, ça m'oblige d'avoir un comportement religieux, on me met et ça protège. Et ça aussi, c'est vrai. Quand un homme a la longue barbe et des péotes et machin, et veut rentrer dans un cinéma qui n'est pas cachère, il dit, mais je ne peux pas rentrer. Et ça le protège. C'est un achanam, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'ils disent, déguise-toi en tzaddik, ça t'oblige d'être en tzaddik. En réalité, ça n'oblige pas, mais ça aide quand même, c'est juste. Donc, ce sont les deux. quand j'ai dit certains y font raser la barbe, c'est une Gemara Mefouresh, je ne l'ai pas inventé. La Gemara nous dit, Ma Yassé Adam, qu'est-ce qu'un homme qui se fait attraper par les Yetzarara et n'arrive pas à se mitgaber? Il y a un makom chez En Makirin Oto, qu'il aille dans une ville où personne ne le connaît, Yil Bashchorim, il s'habille en noir, et assez machili pour Chavetz, et là, il y a Khalel, Shem Shamaï Barabim. C'est-à-dire qu'il se met dans une ville où personne ne le connaît pour ne pas provoquer un Khilul Hashem. Donc c'est une Gemara. Seulement de l'autre côté, Dieu va habiter dans une ville où on te connaît, oui, comme ça tu vas t'empêcher de faire des Averot. Si un homme il veut vivre avec une communauté juive, et le fait qu'il vit dans une communauté juive, un quartier juif, donc il ne peut pas faire des Averot parce que le regard des gens ne te laisse pas, alors c'est une protection. Donc il faut utiliser cette protection. Mais si on ne se comporte pas bien, à ce moment-là, donc qu'est-ce qu'il fait un homme qui est un jour, il veut se protéger d'Yetzara et le lendemain faire un Avera. Il faut une fausse barbe, donc il accroche là-bas. Non, dans ce cas-là, ça ne protège plus. Il y a une fausse barbe, il peut l'enlever à chaque Avera, il n'y a plus de protection. Oui, je vous écoute, docteur Arbib.
Je peux me tromper, mais par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, Bokobza, les fils d'Eli, on n'a pas vu dans le Shabbat que si quelqu'un qui pense, peut-être que ce n'est pas cet exemple-là, mais celui qui pense qu'ils ont fauté, il se trompe. On n'a pas vu ça.
C'est juste.
Oui.
Alors,
on a vu ça.
Et alors, comment ils ont fait ça?
Un des deux fils, pas l'autre.
La Gemara, la Tanakh, il est marqué qu'ils ont fauté avec les femmes.
Oui.
Ils ont fait des avérotes avec les femmes. Et la Gemara nous dit, ceux qui prennent ça à la lettre, ils se trompent. Ils n'ont pas fait cette faute. Ils ont fait une beaucoup plus légère faute. Mais ils ont fait une faute au Khilul Hashem. Mais pas comme ça. Il ne faut pas le prendre à la lettre. Tant sur le roi David. Ceux qui disent le roi David, il a fauté, ils se trompent. Mais tous les prophètes, ils disent qu'il a fauté David. Nathan Anavil, il dit, t'as fauté avec le mouton et la brebis. Et David de Melech, il a pleuré. Combien de petits, il a pleuré pour sa faute. Comme le Gemara lui dit, il n'a pas fauté. Le sens de la Gemara, il dit, ce que David, il a fauté avec un Eshetish, il se trompe. C'était pas un Eshetish, il était un Pnouya. Il a fauté, mais pas Kipshuto, comme ça marque un Chumash. Ça, c'est le sens de la Gemara.
L'exemple de celui qui va quitter sa ville, il va faire ce qu'il veut, on l'encourage à se conduire.
Ouais. On le courage de se conduire bien, de pas faire Khilul Hashem. S'il fait Navera avec ou sans Khilul Hashem, qu'il le fasse sans Khilul Hashem. Comme il dit Tosot là-bas en Rabbi Yochanan, il n'a pas le droit de faire Navera là-bas. Mais s'il a fait, il a fait son Khilul Hashem. Si on vole, eh bien qu'on enlève la barbe d'abord. Alors, Amar Abaye, Lo Shanu El Ba'atra de Lo Tibae. Alors, Lo Shanu, Abaye l'a dit, Lo Shanu, on n'a pas enseigné les paroles de Rav. On n'a pas enseigné les paroles de Rav. El Ba'atra de Lo Tibae, dans une ville, t'avais dans une ville où ce n'est pas la coutume que le boucher réclame l'argent. Abattre de Tavé, mais dans une ville où la coutume elle est que le boucher réclame l'argent, il n'y a rien à craindre. Ça veut dire quoi? Il y a des villes, c'est la coutume, le boucher ne réclame pas. Les gens, ils viennent payer tout seuls. Mais le boucher ne court pas derrière. Donc, dans cette ville, si Rav il achète, qu'est-ce qu'il va faire le boucher quand le Rav ne va pas payer? Il oublie. Le rabbin, il oublie, Rav, il oublie de payer. Mais on n'a pas la coutume de réclamer. Donc, ça veut dire une semaine, deux semaines, trois semaines, et Rav, il ne va pas venir payer. Et le boucher, il dit, mais je veux payer, mais je peux pas réclamer. Chez nous, la coutume, elle est qu'on ne réclame pas. Donc, il dit, le Rav, c'est un malin. Il m'a acheté en crédit, et après, il oublie, il fait semblant qu'il oublie de payer. Et il sait que moi, je ne peux pas réclamer. Mais dans une ville où les gens ne se gênent pas de payer, ils peuvent réclamer. Donc le boucher, il va dire jeudi, monsieur le rabbin, vous ne m'avez pas acheté la semaine dernière? Ah oui, oui, excusez-moi, d'accord, je vais payer, ça m'a échappé. Donc si les gens ne se gênent pas, il n'y a pas de Khilul Hashem. Parce que le boucher, il sait que l'arabe, il ne va pas échapper. De toute façon, je vais le réclamer. Il ne peut pas échapper. Parce que là, il n'y a pas de Khilul Hashem. Le Khilul Hashem, c'est dans une ville où les gens sont élevés d'une manière que le boucher ne réclame pas l'argent. Là, il y a un problème. Ravine dit, Oumat Marsaya.
Même jusqu'à là, même jusqu'à ne pas rembourser.
J'entends rien.
Même jusqu'à ne pas rembourser. Il y a déjà un Khilul Hashem le rave de la ville, le grand de la ville et tout, il achète à crédit déjà, c'est pas un chilou l'achat menture même.
Non, si dans une ville où le bouche ne se gêne pas à réclamer, le bouche sait que le rabbin, il veut pas trafiquer. Parce qu'il peut pas trafiquer. De toute façon, je vais lui réclamer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, j'ai pas acheté. Il sait très bien qu'il a acheté. Il peut oublier de payer. Ou il peut faire semblant qu'il a oublié de payer. Mais si je le réclame, il est obligé de payer. Donc, je sais qu'il ne veut pas me faire un coup. Donc, ce n'est pas de mauvaise foi. Je sais qu'il n'est pas de... Les dans gens, notre disent... ville, on n'est pas de mauvaise foi.
Les gens, ils ne disent pas, c'est malheureux, un grand homme comme ça qui croit en Dieu et tout ça, il n'a pas de quoi payer tout de suite la viande.
Mais quel rapport avec le crainte de Dieu, avec
c'est un peu un chilou Hachem.
Pourquoi?
Dieu ne lui a pas donné d'argent pour payer cash.
Mais parce que toi, boucher, tu ne veux pas donner de staka à toi, boucher. C'est le faux de boucher. Donc, ça veut dire quoi? Le bon Dieu, ne faites pas les calculs de Dieu. Il n'a pas donné, il avait une dépense d'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Il était obligé de payer quelque chose. Il a marié sa fille la semaine dernière. Il a pris un crédit, il n'a pas d'argent liquide. Bon, ça, ce n'est pas un chilou Hachem. Un homme, il a de l'argent. Un homme, il n'a pas d'argent. C'est comme ça chez tous les gens du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pour les gens du monde, ils peuvent avoir un trou d'argent. Ils accusent tout de suite le bon Dieu. Pourquoi tu n'as pas donné? Il n'a pas donné. Il a une facture. Il était obligé de payer une facture. Deux dents, ils sont cassés. Il était chez le dentiste. Et il n'a pas d'argent maintenant. Alors, où nous sommes? Abaye, Mata Marsaya, la ville de Marsaya, Atre de Tavehu. C'est une ville où on réclame vie. Ravine, quand il est que Ravine, il habitait à Marsaya. Ravine était le rave de la ville Marsaya. Il est dit, notre ville, c'est une ville où les bouchers, ils réclament l'argent. Qu'est-ce qu'il dit, ça, Ravine? Parce que Ravine, quand il a acheté au crédit, des fois. Ravine était le rave de la ville, il a acheté au crédit. Et quand ils ont entendu les paroles de Rav, tout le monde a regardé sur le rabbin. Monsieur le rabbin, je vous ai vu acheter au crédit. Il dit, attendez, notre ville, le boucher ne se gêne pas réclamer. C'est bon, moi j'ai le droit d'acheter. Abaye, et de Shakil Bisre Mitrei Shutfe, Abaye, quand il a acheté de la viande de deux associés, c'est-à-dire quoi? Il y avait deux bouchers, deux associés à la boucherie. Quand il a acheté là-bas la viande, il y a Evzouz et la Haye, Evzouz et la Haye. Il payait chez l'un, il payait chez l'autre. Et après, il les a réunis ensemble. Ils faisaient les calculs. Ça veut dire quoi? Ils partaient chez le boucher, disons Rashi. Alors, alors, ils partaient à la boucherie. Alors, et là-bas, il y avait le vendeur. Il y a deux patrons et un vendeur. Alors, il dit au vendeur, bon, je vais acheter de la viande. Combien ça coûte? 20 euros. Alors, mais vous ne payez pas moi, vous payez au patron. Il ne faut pas payer à moi, moi je ne prends pas d'argent. Vous le voyez à la synagogue, vous payez les 20 euros. Il va à un des patrons, voilà les 20 euros. Le lendemain, il va à l'autre patron, voilà les 20 euros. Alors, il est payé 40. Le jour qu'ils les rencontrent ensemble, il leur dit, je vous ai donné 20. 40, on avait déjà acheté qu'un kilo de viande. Donc, vous me remboursez maintenant 20. Pourquoi il a fait ça? Parce que s'il paye à un, il ne paye pas à l'autre. L'autre revient au magasin et le client et le vendeur, il demande au vendeur, qui est venu acheter aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens. Ah oui, entre autres, le rabbin, il est venu. Ah, il a acheté combien? Un kilo. Combien il doit payer? 20 euros. Il vous a payé, monsieur patron? Non, il ne m'a pas payé. Non, il ne m'a pas du tout payé. Et d'ailleurs, je l'ai vu ce matin à la choule, il ne m'a pas payé. Mais en vérité, il a déjà payé à son choutaf. Alors, il va penser, le rabbin m'a rencontré ce matin à la choule, il m'a donné une vedette 20 euros, il ne me paye pas, c'est pas correct. Donc, dès qu'il a vu un choutaf, il a payé 20, il a payé à l'autre aussi. Il aurait voulu qu'ils soient ensemble, comme ça, il règle devant les deux. Mais s'il ne le rencontre pas. Mais Kitsour, c'est quoi l'idée de la Gemara? Ça, c'est un cas. L'idée, elle est, tu dois faire d'une sorte de la business que personne n'y pense de toi, que tu viens d'arnaquer quelqu'un.
Je m'excuse, je ne comprends pas bien le Rashi. Il a donné l'argent sans avoir pris la viande et non, après il est réuni, il prend la viande.
Il a pris la viande.
D'après Rashi, ce n'est pas évident.
Pourquoi? Peut-être le copain ne va pas savoir que je lui ai payé. Et est-ce qu'un chilo l'achem? Va vite rouge bené. Et après, il fait le calcul. Ah, il ne sait pas faire rembourser. Il prend encore un kilo de viande. Un kilo de viande coûte 20 euros. Lui, il a acheté un kilo. Donc, il a payé 20 euros à un choutaf. Après, il a payé 20 euros à l'autre choutaf. Et une fois, il vient au magasin, quand les deux choutafim sont là, il leur a dit, vous rappelez, je vous ai payé 20, 20, ça fait 40, mais j'ai pris qu'un kilo. Non, vous me donnez encore un kilo pour le deuxième. Vous me donnez encore un kilo de viande pour le deuxième. Il n'a pas
fait complication
qu'on lui rende, mais il a pris de la
marge. Quelle complication? Ça amène à plein d'erreurs, ça. Plein d'erreurs. Quelle complication?
Alors, dites-moi comment vous aurez fait.
Eh bien, je prends un carnet dans le magasin et je marque et je barre quand quelqu'un vient.
Comment vous faites, quoi?
Je prends un carnet dans le magasin de crédit et quand je viens, les deux shootards qui voient le carnet, ils barrent.
Et s'il n'y a pas de carnet?
Il n'y a pas de magasin non plus aussi, non? Il n'y a pas de stylo?
Non, s'il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de problème. Mais il y a un magasin sans carnet où le carnet, il se perd. Ah, parce que vous croyez qu'à l'époque, il s'était organisé comme aujourd'hui avec une caisse.
C'est compliqué. J'ai pas pris mon deuxième kilo. Je te l'ai payé mon premier kilo. Le vendredi d'après, j'ai pas acheté mon kilo. C'est quoi ça?
Mais on parle dans un cas. Les situations sont telles. Si vous dites qu'il faut pas organiser comme ça les business, c'est bon. Organiser autrement. Mais on est devant un cas. D'accord. On est devant un cas où c'est maintenant c'est comme ça. Alors maintenant, il y a deux façons de payer. Ou je paye à un et pas à l'autre, ou je paye aux deux. Dans cette situation donnée, il y a un risque qu'on va me soupçonner. Il ne faut pas qu'on me soupçonne, je complique un peu les choses. Il ne faut pas qu'on me soupçonne. Maintenant, vous dites, mieux vaut organiser autrement. C'est bien. Mais ça ne dépendait pas le rabbin d'organiser. Cette boucherie, elle s'est organisée comme ça. Alors, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, pourquoi la Gemara parle toujours de la viande? Rav, il parlait, j'achète de la viande, et maintenant, Abba, il dit, il veut de la viande. Tout le monde, il parle de la viande. Pourquoi il parle de la viande et pourquoi il ne parle pas des pommes de terre? C'est la même chose, mais les rabbins n'étaient allés pas acheter des pommes de terre, ils achetaient de la viande. Pourquoi? Chod Shabbat. Parce qu'il y a mitzvah d'acheter pour Shabbat, et pourquoi les rabbins, ils n'achetaient pas des pommes de terre le Chod Shabbat? Ou la viande, il veut vérifier si c'est kasher. Peut-être la viande, le rabbin, il est parti quand il faisait égorger le poulet devant lui pour voir si le couteau, il est bien.
Non, parce que c'est la main de la rabbin qui est allé acheter. Les autres aliments, ce n'était pas les rabbins qui allaient les acheter, c'était leur femme.
C'est ça que j'ai dit. Mais pourquoi pile la viande, le rabbin, il achète?
Parce qu'ils veulent voir ce qui se passe dans la viande, c'est important.
Ah, au même moment qu'on achète la viande, il jette un petit coup d'œil. Est-ce que la viande est bien cachérisée? Est-ce que le chauffeur est venu?
Peut-être parce que la viande...
Le boucher est sous surveillance. Quoi?
Peut-être parce que la viande, c'est hachouf, tout simplement. S'il avait pris des pommes de terre, il ne serait pas macpide, le marchand. Mais par contre, la viande, ça coûte cher.
Parce que ça coûte cher. Bon. Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan dit, moi, j'explique un autre cas, c'est quoi chilul Hashem? Par exemple, moi, de maskina arba amot belot Torah belot filin. Moi, si je marche quatre coudées sans étude de la Torah, sans tefillin sur la tête, ça c'est un chilul Hashem. Rabbi Yochanan, toute la journée il a étudié, et dès qu'il a arrêté d'étudier, il va faire autre chose. Les gens ils disent, le rabbin, pour lui l'étude n'est pas si importante. Et belot tefillin, je marche sans tefillin, les gens ils vont apprendre de moi, ah c'est pas si important les tefillin. Yitzhak de Bey Rabbiana Yamar. Yitzhak, dans la yeshiva de Rabbiana, a dit, qui c'est Yitzhak? Rabbi Yitzhak. Il manque ici un mot ou pas? Est-ce que c'est marqué Rabbi Yitzhak de Bey Rabbiana ou c'est marqué Yitzhak de Bey Rabbiana? Il y a un juif qui s'appelle Yitzhak, il ne s'appelle pas Rabbi. Bon, il douche. Yitzhak de Bey Rabbiana Yamar. Le Yitzhak de la yeshiva de Rabbiana. כל שחבי רב מתביישין מחמת שמועתו. היינו חילול השם. C'est quand les copains, ils ont honte quand ils entendent comment ils se comportent. Rashi, Anna de Masgina. Rashi, sur Rabbi Yochanan, Anna Masgina, moi que je marche, sans Torah, sans tefillin, quatre coudées, ben à kol yodim, je n'ai chlashti b'girsati. Et les gens ne savent pas que je suis fatigué, pour le Made in Hemen, ils vont apprendre les Batel Metal Motora. Ça veut dire, même s'il marche les quatre coudées, pas parce qu'il est mezalze batoura, mais il est fatigué, mais quand même c'est un Chil Hashem. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yochanan Bemet quand il est fatigué? Il s'efforce de lui, il étudie le Tchilim. Je m'efforce jusqu'au bout. Alpidine, je ne suis pas tout. Je suis tellement fatigué, je ne suis pas obligé d'étudier maintenant. Mais c'est un Chilul Hashem. Donc, je vais m'efforcer pour pas qu'il y ait un Chilul Hashem.
Devant ses enfants, il peut se reposer?
J'entends pas.
Devant ses enfants, il a le droit de se reposer, c'est pas un Chilul Hashem?
Mais les gens et les enfants, ils savent qu'il est fatigué. Rachid dit, Ein Hakol Yodim, pas tout le monde sait que je suis fatigué. Les enfants, ils savent qu'il est fatigué. Donc, devant les enfants, ils peuvent se reposer, mais pas devant le public.
Comment le public ne peut pas?
Comment le public ne peut pas? Même à la maison.
J'entends pas.
À l'extérieur ou à la maison, tout le monde? Voilà.
Là où tu influences les gens d'affaiblir le judaïsme.
À même ses enfants, alors?
Oui. Un père qui vole devant ses enfants, les enfants disent, papa, fais pas attention sur l'argent.
Comment le public il peut voir qu'il est sans Torah? Sans Tchilin, je comprends, mais c'est sans Torah, c'est...
Il étudie pas.
Quand il marche dans la rue, ça, enfin, quand il marche dans la rue, ça se voit pas, enfin, qu'il étudie ou qu'il étudie pas, il étudie seul dans sa tête.
Ah. Je ne marche pas quatre coudées sans Torah. Comment on voit qu'il marche quatre coudées sans Torah? Comment on peut savoir? Peut-être dans la tête, il étudie.
En général, il parle en même temps. Il étudie à haute voix. Voilà. D'ailleurs, votre toute frère, Zacher Letov, souvent je l'ai vu avec ses bains, il marche et puis il a des mouvements de la main. Des mouvements... comme ci ou comme ça, comment il en est.
Non, Rafraïkin lui a dit de ne plus rouler en mobilette. Il roulait en mobilette avant. Il a dit, ne roulez pas en mobilette, j'ai peur, parce que vous réfléchissez en roulant, c'est dangereux. Il a dit, bah, allez-y à pied, comme ça, il disait. Mais un homme, il peut penser dans le Lernel. Quoi, Rabbi Yochanan, il avait des gestes quand il étudiait, et quand il est fatigué, il voulait marcher sans geste d'étudier.
On voyait ses lèvres murmurer, on voyait qu'il parlait.
Hier, j'ai vu dans le Kuzari, et c'est marqué aussi dans la Zohar, je l'ai vu Shabbat, c'est marqué aussi dans la Tshuva de Rav Saadia Gaon. Tous les trois, on leur a demandé pourquoi les Juifs, ils se bougent quand ils étudient. Ils ont répondu tous la même chose, aussi marqué dans le Zohar, aussi dans la Kuzari, aussi dans la Rav Saadia Gaon. Tous les trois, ils répondaient les mêmes. Que l'étude de la Torah, il y a du feu dedans. Et c'est pour ça qu'on bouge. Je ne sais pas quel est le sens de ce truc-là, mais...
il y a comme du feu. Comme la flamme d'une bougie.
Quoi?
La flamme d'une bougie, elle bouge tout le temps.
C'est comme ça qu'il dit le Zohar. L'étude, c'est comme une flamme de bougie. Et les Juifs, ils sont nés par une flamme. La neshama du Juif, c'est comme une flamme sur la petite là de Kadesh Baruch Hu, et même ça bouge. Mais je ne sais pas si c'est un clan, on est obligé de bouger, on n'a pas le droit d'être assis et réfléchir sans bouger.
Un juif qui parle, il bouge tout le temps la tête.
Quoi?
Un juif qui parle, il bouge tout le temps la tête. Un goy qui parle, il ne bouge pas. Il y a eu un massé comme ça, je crois, avec un Rav Pinto. Il y avait un goy qui a fait une dracha à la synagogue. Les gens, ils croyaient qu'il était juif. Mais le rabbi, il a tout de suite dit qu'il était un goy, il ne bougeait pas la tête.
Mais des fois, c'est dérangeant que l'autre, il bouge. Moi, des fois, j'ai du mal à... quand quelqu'un bouge trop, ça me dérange. Des fois, c'est des théâtres.
C'est une concentration quand on bouge. On se concentre plus quand on bouge.
Non, on retient plus. Quand on bouge, en fait, on s'arrête et son cerveau, il prend le temps d'emmagasiner ce qu'on a. Peut-être c'est ça.
En vérité, il y a deux sortes. Des fois, on est obligé de ne pas bouger. Il y avait des gens qui ne bougeaient pas. Il y avait des chachamim qui ne bougeaient pas. Quels ne bougeaient pas? Ils ne bougeaient pas un millimètre. Ils avaient une autodiscipline de folie. Ils ont travaillé. Parce que Levenstein, il n'a jamais mis le dos sur le dossier, il n'a jamais eu les mains sur le truc. Toujours, c'est comme ça. Il n'était jamais accoudé nulle part, pas accoudé le corps. Absteinmann, il ne s'est pas accoudé. Il y a des gens qui ont vécu comme ça, avec un contrôle du corps, pas bouger la tête, pas bouger les yeux, rien. Bon, il y a différentes sortes, d'approches. Alors, où nous sommes? Alors, Amar Rav Nachman, on va continuer. Quand les copains, ils ont honte de ce qu'on entend de lui. Rashi, Machmat Shemuato, Machmat Shemra Hayotzi Alav. Les gens, ils parlent de lui, ils ont honte. Oh, lui, il a fait ça. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un Chilul Hashem. Amar Nachman Yitzchak Gon de Ka'amre Inche. Quand les gens disent « Char, les mares, les plagnes », que Dieu pardonne à ce monsieur. Quand on entend dire sur un juif que Dieu pardonne à ce qu'il fait, alors ça veut dire que cet homme-là, il a fait un Chilul Hashem. Aïe, aïe, aïe. Comme ça, les gens, ils parlent. Vous avez entendu qu'est-ce qui s'est passé à la Shul ce matin? Yankel s'est levé, il a dit des paroles. Aïe, que Dieu pardonne ce qu'il a dit. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que Yankel, il a fait un Chilul Hashem. Il a fait un Chilul Hashem. Comme ça, les gens, ils parlent. Alors, mais qui sont les gens? Les gens bien, bien sûr. Si c'est des voyous, les voyous, ils aiment de parler mal d'un tzaddik. De voir un tzaddik et un homme juste, il dit des choses correctes. Mais les gens, ils ne veulent pas écouter. Ils disent, oh là là, insupportable ce rabbin. Et c'est parce qu'eux, ils sont insupportables. On parle ici des gens bien. Des gens bien qui disent, aïe, 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 c'est ce qu'il a dit quand il dit. On a honte d'avoir entendu ça de lui. Abba j'ai Amar. Abba, il dit que des Tanya, comme on a vu dans une braïta, tu aimeras Dieu. Ça veut dire quoi? Tu aimes Dieu, c'est pas seulement que toi, tu aimes Dieu. L'amour que tu as vis-à-vis de Dieu doit t'amener que tu voudrais que tout le monde il aime Dieu. Ça veut dire tu comportes de façon que les gens ils veulent aimer Dieu, que les gens ils soient émerveillés de ton rapport avec Dieu. Les gens ils voient, tu te comportes d'une façon que les gens ils disent mais il est bien Dieu, il est bien. Ça nous stimule. Son comportement nous influence, et moi aussi je vais aimer Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Je vois à travers cet homme-là, il est heureux avec Dieu, ça c'est la meilleure des choses. Qui est Koré Veshoné, qu'un homme il étudie, Koré, il étudie le Tanakh, Veshoné, il étudie le Torah, le Mishnayot, Meshemesh Tamid Chachamim, il étudie la Gemara, et son comportement avec les gens, Masao Matano, c'est soit en argent, soit sans question d'argent. Ses discussions et son comportement avec les gens, benach était agréable. Ma briot omrot. Qu'est-ce que les gens ils disent? Asrei aviv shelim do Torah. Heureux est son père qui lui enseigne la Torah. Asrei rabo shelim do Torah. Heureux son maître qui lui enseigne la Torah. Oilem le briot shelonam do Torah. Gare aux gens qui n'étudient pas la Torah. Ploni shelim do Torah. Monsieur Ploni, il a étudié la Torah. Ou kamad narim de Rachav. Regardez comment sont agréables son comportement. Comment ces actions, ils sont bien organisés. Ils ont d'autres exemples qui n'ont pas étudié la Torah. Ils se comportent comme des abrutis. C'est-à-dire, les gens, ils savent qu'il y a des abrutis qui n'étudient pas la Torah ou des gens qui n'étudient pas la Torah qui sont abrutis. Maintenant, ils ont devant quelqu'un qui a vu étudier et les gens regardent. Si ceux qui étudient, il a un comportement convenable et à l'autre côté, il a des gens qui sont maratim, qui se comportent comme des abrutis, les gens, ils disent, ah, c'est sa Torah qui a fait heureux. Eh bien, on voit que la Torah transforme l'homme. C'est beau. La Torah, c'est la bonne éducation. Grâce à la Torah, on n'est pas drogué. Grâce à la Torah, on ne vole pas. Grâce à la Torah, ils ne font pas toutes ces bêtises que les autres y font. Ça, c'est un Kiddush Hashem. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, c'est
même
comme
si
ça.
Même si un goy dit ça de nous,
oui? Hein?
Même si un goy, il dit ça de nous, on a fait un kiddush Hashem.
Oui, ça ne change pas goy aux juifs.
Et si
ça le change contraire pas. Aussi.
D'accord.
Ça ne change pas. Comment il disait une fois, une fois là, qui c'était l'histoire? Je ne me rappelle plus.
Moi, j'ai mon voisin, il disait, je vois les juifs dans la rue. Je dis, mais il n'y a pas un gros mot qui sort de leur bouche. Quand je vois les enfants des goyim, il n'y a que des gros mots, des mauvais comportements. Il a dit, vraiment, vous savez éduquer vos enfants. Pas mes enfants, moi, tous les juifs dans la rue du Haut-du-Roi, il me disait ça.
Ouais, oui, ça, c'est un kiddush Hashem. Ça, c'est un kiddush Hashem. Une fois, comment était l'histoire? Je ne me rappelle plus, en tout cas, Madame Chirac, elle a discuté avec un truc. Et Madame Chirac, elle disait, oui, je connais beaucoup de femmes juives et tout. Alors le journaliste, il a dit, qui vous connaissez comme femme juive? Alors elle était un peu interloquée. Alors elle a dit, Madame Citruc. Bon, après cette histoire, elle a téléphoné, Madame Citruc, je voudrais vous voir. Elle est venue parce qu'elle était obligée. Alors ils ont discuté. Alors Madame Citruc et Madame Chirac a dit, je remarquais que chez vous, chez l'école juive, il y a des choses qu'il n'y a pas dans les écoles publiques. Chez vous, il y a plusieurs choses, la vulgarité, la violence, etc., etc. Et chez vous, c'est mieux. Comme pourquoi? Alors, elle a dit, chez nous, il y a des cours pour ça. Il y a des cours contre la Shonara. Elle demande c'est quoi la Shonara. Elle lui explique que c'est la Shonara et tout. Et différentes choses, elle lui explique. Il paraît qu'un jour, plus tard, Madame Chirac, elle aurait dit, dans les écoles juives, il y a des cours contre de la Shonara. On éduque les gens, on parle pas mal des gens. Et bon, c'est comme ça qu'il faut que ce sera. Maintenant, à la vaille, qu'est-ce qui aurait été vrai, que ben, chez tous les juifs, il n'y a pas de gros mots, et que l'éducation, elle se passe comme il faut. Si ça aurait été vraiment plus tôt, ce sera merveilleux. Mais c'est quand même mieux, Baruch Hashem, mais en Eretz Israël aussi.
On connaît le but à atteindre.
Tant qu'on ne rencontre pas les politiques et les journalistes et les casse-pieds, tant qu'on a avec des gens normaux, eh ben, ils savent faire la différence entre un enfant religieux. Ils savent, il y a une différence quand même. Peut-être pas dans tout, mais dans une grande partie, oui. Alors. Sur lui, le pasouk, il dit, Vayomer li, avdiata. Vayomer li, qui c'est Vayomer li? Il m'a dit à moi, avdiata, tu es mon esclave. Qui est-ce qui dit? C'est Dieu. Israël, tu es le juif, avec lequel je peux me glorifier. Ava mi shikore vishone, mais ce qui est étudié, ou me shemesh tamidchim, il fait même la Gemara, ve'en masao matano be'imuna, et son business n'est pas honnête. Avant, c'était marqué, pas le mot Be'emuna, avant, c'était marqué Be'emasao Matano Benachat. Benachat. Il y a une autre girsa qui dit Be'emuna. Le Bach, il dit avant aussi Be'emuna, honnêtement. Avant, c'est marqué son business, il est Benachat, calme. Mais l'autre girsa, son business, il est honnête. Honnête. Alors, mais si quelqu'un veut Be'emasao Matano Be'emuna, c'est pas honnête. Il fait du business pas honnête. Qu'est-ce que c'est honnête? Qu'est-ce que c'est pas honnête? C'est beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est honnête? Honnête, il fait honnête. Et lui, il est pas honnête. Des fois, tu entends des gens dire, ce monsieur, il est pas honnête. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous dis, il n'est pas honnête. Ce magasin n'est pas honnête. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas honnête, je vous le dis, ce monsieur. Il fait des choses. Ça tourne pas rond dans ce magasin. Et l'autre dit, ce monsieur, il est honnête. Ça, c'est un magasin honnête. La marchandise, c'est des bonnes marchandises. Les prix sont corrects. Les promesses sont des promesses. Il n'essaye pas d'arnaquer. C'est honnête. Ça, c'est un business honnête. Et lui, il n'est pas honnête. Voilà, c'est comme ça. Vein masano matano biuna. Vein diboro benachat amébriot. Ah, maintenant, il y a le monachat. Il y a deux choses. Et ces paroles n'est pas benachat, n'est pas agréable. Donc, il y a deux choses. Il y a honnête et agréable. Deux choses. Amébriot omrot alaf. Qu'est-ce que les gens ils disent? Oilo le ploni shelama Torah, gar a ploni qui a appris la Torah. Oilo la aviv shelim de Torah, gar à son père. Pshh, les gens ils vont aller tellement loin. Ils se comportent pas bien. C'est oi C'est-à-dire, les gens, ils vont dire, qu'est-ce que les gens, ils vont dire? La Torah n'a pas arrangé l'homme ou la Torah a tordu l'homme? La Torah dit, gare à cet homme qui, son père lui a enseigné la Torah, oilo la rabo shalam la Torah, gare à son maître qui a pris la Torah, ploni shalam la Torah ou kama me koul kolim masaf. Ce monsieur qui a fait la Torah, regardez comment il est tordu. Ça veut dire quoi? On peut dire deux choses. On peut dire, mais à quoi ça sert la Torah? Ça ne sert à rien. Je vois que son père lui enseigne la Torah, mais ça n'a rien donné. Il est resté abruti comme avant. Ou non, les gens vont aller un peu plus loin. La Torah a rendu cet homme tordu. Mais il valait mieux qu'il étudie. Et s'il n'étudie pas, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, s'il n'étudie pas, alors quoi? Alors, il sera un abruti. Peut-être il sera moins. Les gens, ils vont dire, parce qu'il est, il a le Torah, c'est pour ça qu'il a abruti. Pourquoi? Peut-être il est parce qu'il était comme ça. Et pourquoi la Torah ne l'a pas arrangé? C'est d'accord, la Torah ne l'a pas arrangé. Mais en quoi c'est grave qu'il a étudié? Et considéré comme il n'a pas étudié. Non, les gens, ils vont dire, c'est la Torah qui l'a rendu comme ça. Pourquoi les gens raisonnent comme ça? Parce qu'ils cherchent une excuse contre ne pas faire la Torah. Pourquoi les gens, ils vont considérer c'est la Torah qui leur a rendu tordu? On va regarder Rashi tout de suite. On va lire la fin de la Gemara. On va partir à trois ensemble. Voilà, v'ta tout vos mères. Sur ces gens-là, ils disent, Bemor lahem amashem eile, les goyim, ils vont dire, ça c'est le peuple de Dieu, ou me arzo yatsaou, ils sont sortis de la terre d'Eretz Israël. Quand les Juifs sont partis en exil, c'est un chilou l'Hashem. Parce que les goyim nous ont dit, ah, Dieu leur a donné ces terres, il les a expulsés. Ah, ça veut dire quoi? Ils ne se sont pas comportés bien. Ça, c'est un chilou l'Hashem. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Alors, Mesham et Shtamide Chachamim, Kore Mikra, c'est le Chumash, le Tanakh, Veshone Mishnah, ou Mesham et Shtamide Chachamim, l'Elmot Talmud, ou Yishufta, me Mishnayot, ou Matam, me Echan Lamdou, c'est la raison de la Mishnah. Et zu kara hakatuv chilul Hashem, le pasuk il appelle chilul Hashem. Keshadam chashuv over avera, quand un homme important il fait un avera ou paronut ma'alaf, et après il est puni, à kolom rim ma'hiilulo, à quoi ça servait d'être religieux? Ruach hasidim ha'chachamim raba alehem, tu vois les gens pieux et les chachamim que le mal arrive sur eux, shenema vaychalelu et shem kotchi, ou bamechilelu be'emor alehem hanochim quand te goyim disent sur eux. Les goyim que les juifs sont partis parmi les goyim parmi eux que les juifs sont exilés et les goyim disent ouah machem eile, ça c'est le peuple de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas les sauver. Je le iglou qui part pas en exil. Les gens ils disent Dieu n'a pas de pouvoir de protéger ses amis. Ça c'est le peuple de Dieu. Eux ils ont reçu la religion. Et ils sont partis en exil. Et pourquoi Dieu ne leur a pas aidé? C'est que Dieu n'a pas de force. Donc c'est un manque de kavod vis-à-vis de Dieu. Et quel rapport ici? Ça veut dire la Torah n'a pas pu éduquer bien. Maintenant la comparaison. Le verset, c'est pour illustrer l'enseignement. Quel était l'enseignement? Si un homme il a étudié la Torah, il se comporte mal. Les gens ils disent, gare à cet homme-là que son père lui a enseigné la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien servi. Parce que comment se fait qu'il est resté abruti comme avant? Donc, il n'y a rien dans la Torah. Donc, Dieu n'a pas donné une bonne Torah. Il a donné une Torah pour dire on va éduquer les gens, mais il n'éduque pas. Donc, il n'y a rien à la Torah. Alors, je ne fais pas la Torah. Avec quoi on compare ça aux Juifs qui sont partis en exil et les goyim ils disent pourquoi Dieu ne les a pas protégés? C'est-à-dire que Dieu n'a pas de force. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, ça ne m'intéresse pas Dieu. Il n'a pas de pouvoir. La même chose. Est-ce que je vais m'approcher à la Torah? Si elle éduque les gens, je veux bien, mais elle ne sert à rien. Je vois ce type-là, il étudie la Torah, il est comme la Maharetz, donc ça ne sert à rien, alors pourquoi je ferai la Torah? Ça, c'est Chilul Hashem. Alors,
est-ce qu'on peut pousser le raisonnement et dire que si on connaît quelqu'un qui malheureusement n'est pas très intelligent ou handicapé, il n'a pas le droit d'étudier?
Je n'ai pas compris.
Si on est sûr que celui-là, il va étudier, mais qu'il va être, quoi qu'il advienne, il va être stupide, pas intelligent. Ça ne va pas le rendre racham, quoi qu'il advienne. Est-ce qu'il faut lui interdire d'étudier? de peur d'un Khilul Hashem?
Quand vous êtes sûr ou vous avez un doute?
Le médecin dit, celui-là, il est handicapé mental. Je vais pousser le raisonnement jusqu'au bout. Bon, est-ce qu'un handicapé mental, il n'a pas le droit de...
S'il est handicapé mental, les gens ils vont comprendre qu'il est handicapé, donc on ne va pas accuser la Torah. Si
on ne le voit pas,
hein?
Si ça ne se voit pas, quelqu'un il sait que celui-là, il est un peu léger dans sa tête, il doit l'interdire d'étudier. Je ne suis pas obligatoirement handicapé mental. Il est fatigué dans la tête, il fait des bêtises. Il faut l'empêcher d'étudier de peur d'un Khilul Hashem.
Peut-être, oui. Et peut-être, il faut lui donner une espèce de religion légère, pas de Chochmat Torah. Il ne faut pas qu'il connaisse beaucoup de choses. Si Béhémet, on va lui donner des Torahs et il va les utiliser à tort et à travers, ce n'est pas une bonne affaire. Mais de le priver entièrement de la Torah, il faut bien qu'il connaisse un peu, il faut se comporter bien. Mais il faut lui donner une Torah légère, ce qu'il a besoin de savoir. Il ne faut pas qu'il connaisse trop. Alors, sur ça, on a vu dans la Gemara Psachim. On avait fait ça avant Pesach, dans le dernier Perek. Sur 3 ans, Dieu, il pleure tous les jours à ceux qui peuvent étudier la Torah, il l'étudie. Pour ceux qui peuvent étudier, il n'étudie pas. Alors, une personne, ceux qui ne peuvent pas étudier, il étudie, Dieu, il pleure. C'est quoi? Il ne peut pas étudier, sa tête, il ne peut pas étudier. Il comprend tout à travers. Et Dieu, il pleure que s'il étudie la Torah, parce qu'il forcément, il va l'utiliser mal. Mais priver quelqu'un d'étudier, c'est difficile, parce que nous, on n'est jamais sûr. Peut-être qu'il va lui faire des bonnes choses. Parce qu'on est sûr qu'il va utiliser mal. Si vous êtes sûr, anachaname. Alors.
Pourquoi les gens ils penseraient automatiquement que c'est la Torah qui a rendu mal ce monsieur? Et pourquoi on ne dit pas, ils ne penseraient pas, oui, mais ce monsieur il avait des mauvaises midotes et c'est pour ça qu'il a mal réussi à quelque chose de
plus. C'est ça que j'ai posé avant, mais après j'ai réparé un petit peu. Ce n'est pas que les gens ils vont penser que la Torah elle est mal, mais elle n'est pas bonne non plus. Elle sert à rien. C'est ça que les gens ils vont dire. À quoi ça sert?
C'est le parfait bouc émissaire.
À quoi ça sert la Torah? Je vois que la Torah sert à rien, donc je ne la fais pas. Voilà, c'est ça que les gens
ils vont dire. Samamavet, Samamavet ou Samachaim?
Bon, moi, je vois que c'est Samamavet. Moi, l'exemple que j'ai devant moi, elle est Samamavet. Alors, je le fais.
Alors, mais est-ce que c'est Khilul Hashem si c'est Samamavet?
Oui.
On sait ça. Mais c'est une réalité. Ça peut être sa maman bête, c'est pas
alors, tu affaiblis les gens. Mais qu'est-ce que tu veux? Que les gens ils sont religieux, ils ne sont pas religieux. Si les gens ils pensent que la Torah c'est sa maman bête, c'est une tragédie. Si tu as montré, donc la Torah c'est sa maman bête, alors je ne veux pas le prendre.
Mais c'est une réalité, ça peut être sa maman bête. Les gens ils savent.
Mais si je considère que toute étude après est sa maman bête, amène-lui des Bahurim qui sont bien, amène-lui des Tamidachar qui sont bien. Alors il va dire c'est un Samachayim, mais comme ça tu encourages les gens. Mais si tu fabriques un exemple de Samamavet, oui, c'est un Khilul Hashem.
Mais toutes les injonctions pour étudier la Torah ne font pas de différence entre un tel et un tel. Et donc tout un chacun doit étudier la Torah. Maintenant, celui-là, pourquoi est-ce qu'on va penser qu'il est de travers? S'il est idiot, vous avez dit vous-même, ça, tout le monde le reconnaît. Si c'est parce qu'il en fait un mauvais usage, à ce moment-là, c'est un Talmid Sheino Hagon. Ça, c'est vrai. C'est marqué qu'on n'a pas le droit de le renseigner.
Voilà, oui, c'est ça. Quand il y a un soldat à la guerre, on lui donne un fusil, on lui dit de tirer. Et si tu as un soldat tordu, que si tu lui donnes un fusil, il va tirer sur ses copains, eh ben, on ne lui donne pas. Mais les soldats, ils font un fusil. Oui, mais pas lui. Lui doit aller à la cuisine. Il ne faut pas qu'il ait un fusil. Il est fou. Il ne fait pas attention. Il tire sur les trucs. On ne lui donne pas de fusil dans la main. Alors, Amar Avchama bar Rabbi Hanina. Allez dire Avchama, le fils de Hanina. Qui c'est Hanina? Rabbi Hanina, le Rabbi Hanina connu. Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya, les deux grands copains de Rabbi. Et Rav Chama, c'était leur fils. Et Rav Chama, c'était les successeurs de Rabbi. C'était des grandes personnalités. Rav Chama, les successeurs de Rabbi. Il était le fils du copain de Rabbi. Amar Rav Chama Rav Hanina. Gdola Teshuva, grande est la Teshuva. Shimivia Rifut le Olam. Elle apporte la guérison au monde. Je n'ai pas car c'est marqué Erpa Meshuvatam ou Havem Nedava. Erpa, je vais guérir Meshuvatam leur égarement ou Havem Nedava. Ça veut dire quoi? Alors, est-ce que ça se trouve dans le Vidal? Il y a un Vidal, ça s'appelle le livre de médicaments. Là-bas, il y a dedans tous les antibiotiques et tous les trucs. Est-ce que c'est écrit là-bas dans T? Il y a comme ça des numéros, non? Dans T, Teshuva, médicament qui guérit les maladies, s'appelle Teshuva. Ça existe au Vidal. Pourquoi c'est pas marqué? Mais Rav Chama, il a dit, ça guérit quoi? Les stigmates, les maladies de l'âme, pas du corps, de l'âme. Les gens sont malades. Ah, les gens sont malades, il faut les guérir. Chez le rabbin, vous avez un médicament, oui, comment il s'appelle? Il s'appelle Teshuva, monsieur. Vous faites Teshuva, vous allez guérir votre âme. Vous êtes égaré, monsieur, il faut vous guérir. Pshhh. Il aurait dû dire ça dans la première page de Meseret Yuma. Ça fait une année, on se casse la tête pour Meseret Yuma, dit Yom Kippour, et maintenant, à la fin, enfin, on arrive. On a passé tous les zrikot à dame et le chélef et le dame et les habits et on s'est cassé la tête ou en fait. Et à la fin, on arrive. Mais voilà, c'est ça. Et pourquoi on met ça à la fin?
On n'a pas vu ça dans Psachim aussi, là, le même truc, là. Hier ou avant-hier. Dola Tshuva chez Meviar, il faut la olam.
On a vu ça dans Psachim?
Je crois, ouais. Hier ou avant-hier, non?
Peut-être dans Yuma, on a vu ça en haut.
Ou alors peut-être c'est dans Yuma, je ne sais plus. Mais ça me dit quelque chose, le même truc.
Combien il faut en prendre par jour de la teshuvah?
Quelle dose?
Ben oui, c'est ça qu'on ne sait pas.
Ça dépend quelle maladie il a, combien de maladies il a. Ben, si un homme il a une grande grippe et le médecin il lui dit, pas grippe ou je ne sais pas quoi, un autre truc, il dit vous prenez 5 jours d'antibiotiques. Et si c'est plus grave, il dit, vous prenez 6 jours. Et si c'est encore plus grave, il dit, 7 jours. Et un, il dit, vous prenez un le matin. L'autre, il dit, vous prenez un le matin, l'après-midi, le soir. Ben, ça dépend à quel point il est malade. Il y a des gens qui sont gravement malades, et il y en a qui sont légèrement malades.
C'est ça qu'on apprend, la quantité.
Oui, et la qualité, et quel médicament, et quel virus, et quelle même bactérie là, et quel champignon, et quel...
Et si on a trop pris?
Il faut arrêter de prendre. Hein. Alors, Rav Chama bar Rav Hanina Rami. Rav Chama bar Rav Hanina Rami. C'est quoi Rami? Il a posé une contradiction. Il est marqué, Shuvu Banim Shovavim. Shuvu, retournez, Banim, enfant, Shovavim. C'est quoi Shovavim? Du Miikara, Shovavim, Atem. C'est quoi ça, Rashi? Du Miikara, Shovavim, Atem, que je tasse ou te Shuva, quand vous faites Shuva, mal et alechem, je vous considère. Kilo trilat hachet alidinarut vishtut vishovevut. Si vous faites Shuva, alors je vais considérer que votre péché sera considéré comme naarut, un enfantillage. Shtut beti, shovevut. Shovav. Shovav, c'est quelqu'un, comment on traduit Shovav, un enfant Shovav? Il réfléchit, spontané, fait n'importe quoi. Si vous shuvu banim, si vous retournez, alors shovavim. Je vous considère, vous avez fait une bêtise d'enfantillage. Mais ça reste un peu du péché. Mais Je dis que vous n'êtes pas méchant. C'est pas méchant, c'est pas bien réfléchi. Des fois, un homme, il fait une bêtise. Le prof, il dit, comment tu fais une bêtise? Excusez-moi, j'ai pas voulu faire du mal. Bon, j'étais un peu distrait, j'ai pas bien réfléchi, mais pensez pas que vraiment j'ai voulu faire du mal. J'étais distrait. Mais Akadosh Baruch Hu considère que tu as eu un péché de distraction. Uktiv, c'est marqué, Erpa meshuvotechem, je vais guérir votre égarement. Ça veut dire, j'enlève tout, Rashi. Uktiv, Erpa mashuamikam, veilech kebal mum shinitrape. Ah non, Rashi dit le contraire. Rashi dit le contraire. Si Akadosh Baruch Hu considère ça comme que tu es un enfantillage, c'est-à-dire, je ne le considère pas comme faute, Bechlal. Je considère, j'y réfléchis, ça va, vous avez fait tchouba, c'est bon, c'était une bêtise que vous avez fait sans kavana. Et le deuxième, erpa, tchoubatam, je vous considère comme des gens guéris. Ça veut dire quoi, comme des gens guéris, mais qui gardent un stigmate. Vous êtes toujours un peu malade, mais vous êtes guéri de la maladie. Vous êtes en reconvalescence. C'est le deuxième, Erpa Meshuvatam, c'est moins bien que Shovavim. Alors, l'okasha, ce n'est pas un kushia. Kalme Ahava, kalme Ira. Si l'homme il fait Teshuva parce qu'il a peur, il reste un peu de son péché sur lui. Et si l'homme il fait Teshuva parce qu'il aime Hachem, dans ce cas-là, c'est tout est parti, c'était rien du tout, c'était une petite bêtise de l'enfance, on n'est pas sérieux, c'est rien.
Mais en général, Rav, ça commence par la peur et après ça devient l'amour. Ça ne reste pas toujours la peur.
Tant mieux. Rashi kan me ahava, Hashav me ahava, ce qui retchouba me ahava, ne ekar avono mitechilato. Eh bien, le péché, il est rétroactivement annulé. D'accord. Bon, c'est d'accord.